Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour moi, le cool, c'est les gens qui ont leur propre idée, leur propre style, leur propre mode de vie.
Pour moi, être cool, c'est avant tout être dans un bon mood et tout.
Tu peux ressembler à un tueur frère, littéralement, et être cool. Hein.
Ouais.
Regardez Robinson Crusoe, il ressemble à rien, pourtant il est cool. Hein. Voilà.
Être cool, ça veut dire être sympa avec les gens. Ça veut dire que le respect, il est là, tu vois.
Bah non, je sais pas.
Écoute, être cool pour moi, c'est être comme moi.
Et si on laissait tomber l'élégance de Chiffon le podcast pour parler du cool? Oui, le cool. Qui est cool? Qu'est-ce que le cool? Où est le cool? C'est exactement ce que nous dirons dans Fashion Gasoil. Fashion Gasoil, un magazine en ligne, mais aussi un podcast. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que le cool? On y va? C'est parti! Pour ce nouvel épisode du podcast de Fashion Gasoil, ou encore appelé Chiffon, je vous invite à découvrir l'univers de Patricia Pereda, qui a créé une marque de joaillerie éthique. Oui, éthique. Rosa Maitea. C'est l'occasion pour moi d'en savoir plus sur l'éthique dans la joaillerie. On en parle beaucoup, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Bonjour Patricia.
Bonjour Valérie.
Alors, qui es-tu?
Alors,
je sais, c'est pas facile comme question d'emblée direct. Qui es-tu?
Je suis Patricia Pereda. Je suis espagnole de Bilbao. Mais bon, je suis aussi parisienne car j'habite à Paris depuis presque 17 ans, donc depuis très longtemps, je me sens vraiment parisienne. Je suis quelqu'un qui aime l'art, la culture, les couleurs et la vie en général. Et voilà, donc je dirais ça.
Ça se voit dans ta façon de t'habiller, dans tes créations.
Oui. Oui.
Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs qui écoutent ce podcast à aller voir Fashion Gasoil. On verra ta photo et tes créations.
Avec des couleurs.
Ah oui, très coloré. Et c'est un de tes mantras d'ailleurs. Mm-hmm. On va en reparler après. Qu'est-ce qui t'a conduit vers la joaillerie?
Bon, c'était toute une accumulation de circonstances professionnelles, évidemment. Enfin, moi, j'ai venais du monde de la culture. J'ai démarré en travaillant pour le musée Guggenheim pendant un an. Ensuite, j'ai passé du côté des business chez L'Oréal, mais c'est en arrivant à Paris que j'ai eu la chance de croiser dans mon chemin quelqu'un qui m'a proposé de travailler avec elle. C'était la directrice d'une marque de joaillerie qui s'appelle Guérin Joaillerie, qui avait été rachetée par les groupes Galeries Lafayette et qui m'avait appelée pour relancer la marque, la mettre dans l'air du temps. C'était une ancienne marque des bijouteries.
Tu travaillais sur l'image
Je travaillais sur les collections et sur l'image, en fait. J'ai chapeauté les deux secteurs, on va dire, les deux aspects pour pouvoir donner une cohérence dans la nouvelle marque qu'on a créée.
Et puis, pendant le confinement, en gros, je reprends ce que tu m'as dit en préparant cette émission, pendant le confinement est née Rosa Maitea.
Voilà, bon, c'était pendant le confinement, mais j'y réfléchissais depuis longtemps à créer cette marque de joaillerie, ma propre marque de joaillerie, mais cette fois-ci différente à la marque dans laquelle je travaillais et différente dans le sens où je voulais absolument que ce soit éthique. Donc, j'ai démarré pendant le confinement. Pourquoi? Parce que, bon, avant, le nom de la marque, c'est Rosa Maitea. Pourquoi? Parce que Rosa, c'est le nom de ma maman. En fait, ma maman nous a quittés juste avant le confinement, d'ailleurs, en janvier 2020, après beaucoup d'années de maladies. Elle était une femme merveilleuse, aimante, un vrai pilier pour la famille. Et donc, du coup, j'ai voulu lui rendre un hommage. Et Maitea, pourquoi ? Maitea, ça veut dire la bien-aimée en basque. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis de Bilbao. Rosa Maitea, ça veut dire Rosa la bien-aimée. Et voilà, un hommage à maman chérie qui nous manque beaucoup. Donc, pourquoi éthique, en fait ?
Alors ça, on va en reparler, mais avant, je voulais te poser une question.
Oui.
C'est vrai que je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui vont se dire « Encore une marque de joaillerie, de bijouterie, de... » Enfin, tout ça tente à se mélanger.
Oui.
Comment tu... Justement, c'est en étant éthique que tu cherches à te démarquer des autres ?
En fait, plus que la recherche de la... de me démarquer des autres, ce que je cherche, c'est à rendre les mondes un peu meilleurs, en fait. C'est, j'ai parti de cette démarche, pas de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur. En fait, le monde de la joaillerie, c'était un monde que je connaissais. Au début, je les connaissais un peu, on va dire, dans la surface, en fait. J'ai été, en tant que directrice de collection, on achetait plein de matières premières dans tous les pays du monde.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que tu allais en Thaïlande acheter des pierres, des diamants.
À Anvers, on passait déjà pour en Italie, en fait, on voyageait pour acheter nos matières premières. À aucun moment, on s'est posé des questions d'où venaient toutes ces matières premières. On savait à peu près, un petit peu de loin, que c'était un monde un peu compliqué, mais on ne voulait pas du tout y rentrer. Et c'est un moment où on est allé dans une conférence préparée par CARE, hein, qui est une organisation non gouvernementale, j'imagine que vous la connaissez, qui nous a montré la vraie réalité des mines dans le monde. Et vraiment, ça m'a énormément bouleversée, en fait. Je me suis rendu compte que comment c'est possible que je travaille dans le secteur de la joaillerie, que je crois dans les bijoux, que j'adore les bijoux, car les bijoux sont des vrais symboles d'amour, car les bijoux sont dans toutes nos étapes de vie, en fait, pour fêter, célébrer quelque chose. Comment c'est possible qu'on ne tient pas en compte ces mondes un peu opaques et obscurs qui est derrière et qui permet la création de ces bijoux, non ?
Alors,
et voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé je me suis dit...
C'est vraiment ta marque de fabrication, Rosa Maitea. Ce sont des bijoux éthiques.
Exactement. Et joyeux.
Et joyeux. Ah, ça, on en reparle, créatif si, et curieux.
Oui. Enfin,
tout ton univers est très intéressant. Mais au-delà de ça, on va parler un peu du bijou éthique, justement. Mm-hmm. Donc, tu m'avais dit qu'il y a trois problèmes. C'est au niveau. Donc, c'est pas facile parce qu'il y a l'or, les mines d'or, les mines de diamants et aussi les pierres. Alors, explique-nous en bref, parce que tu es passionnée par le sujet, tu pourrais en parler pendant des heures. Alors, quel est le problème ? Quelle est ta démarche ? Comment tu fais ?
Alors, quand je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour améliorer un peu, donner un peu plus de lumière dans ces secteurs opaques, j'ai commencé par dire, OK, donc on a l'or. Qu'est-ce qui se passe dans l'or ? L'or, c'est une matière première qui est vraiment une monnaie. Depuis des siècles, on a extrait de l'or. Il y a beaucoup d'or sur la terre. L'extraction de l'or, c'est très impactante dans l'environnement.
Il y a l'environnement et en plus l'humain aussi.
Et l'humain, bien sûr. Enfin, les deux. L'environnement, parce qu'on utilise énormément de mercure et de cyanure, c'est qui empoisonne toutes les communautés qui sont autour des mines d'or.
Tu sais qu'il y avait des villages entiers qui étaient complètement intoxiqués.
En fait, je suis allée au Pérou et j'ai vu des villages qui étaient complètement empoisonnés par le mercure d'une mine qui était à côté, dans la rivière Madre de Dios, par exemple. Et on voyait dans la rue des gens avec des problèmes mentaux. Enfin, c'était terrible. Aussi, au niveau de l'humain, c'est très compliqué. Ils utilisent des enfants pour mettre de la dynamite. En fait, c'est matière qui a été cherchée par l'homme, mais en effet avec ses impacts. Donc du coup, quelle était la solution que je trouvais, en fait, je suis très contente, c'est l'or recyclé.
Le recyclage, voilà.
Voilà. Donc on a beaucoup d'or sur la terre, à quoi ça sert de continuer à l'exploiter et à impacter l'humain. Donc du coup, on a trouvé une filière fantastique qui nous proposait de l'or recyclé qui venait des bijoux anciens. Donc, on a la chance de pouvoir donner aux bijoux une deuxième vie. Donc, ça, c'est le côté or. Dans les diamants, c'est encore plus compliqué, on va dire, parce que d'un point de vue environnemental, on a des grands, on trouve des grands trous qui creusent la Terre, des énormes trous, des cratères qu'on peut le voir des satellites.
Tu me disais que Thomas Pesquet l'avait montré, c'est
oui,
ça?
Oui, exactement. Mmh. Il avait montré une mine, je crois, en Canada et aussi en Sibérie. Mmh. Et il avait parlé de ça, en effet. Quel tru incroyable. De l'autre côté, on a énormément d'impact par rapport au, aussi, d'un point de vue politique, vous connaissez les diamants des sangs. Mmh. Les diamants des sangs sont des diamants qui financent des guerres et des groupes des drogues, des groupes horribles en Afrique.
Oui, tu m'as expliqué des choses horribles, ça on peut le dire.
Oui.
Des femmes enceintes qui ont l'eau oui. jusqu'à la poitrine.
Oui, jusqu'à la poitrine pour extraire les pierres, les diamants, de l'or. Ça, on trouve partout en Afrique. Parce que aussi, c'est important à savoir que les 80% des mines sont des mines traditionnelles et de petites mines qui n'ont pas des conditions, des vraies conditions sécures pour extraire les pierres. En fait, ça peut être l'or, ça peut être les diamants, ça peut être aussi ouais. les pierres fines et les pierres mmh. précieuses. Mmh. Donc les diamants, nous, ce qu'on a trouvé comme
solution,
on va dire, aussi de la même manière que l'or, c'est ne plus extraire la terre. Donc on a trouvé quelque chose qui est assez innovant, qui est des diamants recyclés. Ça veut dire quoi? Enfin, les diamants et l'or, ce sont des matières ouais. qui sont indestructibles en fait. Ils se détruisent jamais, ils sont infinis, ils sont éternels. Et donc du coup, on a eu la chance de trouver un partenaire qui a créé une filière de recyclage des diamants que pour nous. En fait, avant, ils utilisaient
pour
les diamants.
Pour Rosa voilà. T'es la seule à avoir ça.
Exactement. Enfin, auparavant, ils utilisaient les diamants recyclés aussi pour d'autres marques, mais mélangés à d'autres diamants des mines. Mmh. Et ils ont créé juste une filière que pour Rosa Maïtea pour utiliser que les diamants recyclés. Donc voilà, donc ça a été un exploit. On est vraiment contents en plus avec ses partenaires qui est un partenaire RJC.
C'est-à-dire
RJC, c'est Responsible Jewelry Council. Et les RJC, c'est un organisme de certification qui existe depuis 2005 et dont l'objectif, c'est assurer au niveau mondial, en fait, une chaîne d'approvisionnement responsable. L'RJC,
c'est récent encore, hein. c'est que 2005.
Oui, que 2005.
C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Pour les vêtements, la prise de conscience est plus ancienne, mais alors pour les bijoux, c'est vraiment récent.
C'est tout récent. Et on va dire que c'est tout récent, on va dire que c'est depuis 3-4 ans qu'on commence à voir des possibilités et comprendre ce qui se passe derrière et des prises de conscience. En effet, avant, il n'y en avait pas du tout. Avec ses partenaires, on a donné cette possibilité. Enfin, on a trouvé cette merveille de diamants recyclés.
Et les pierres précieuses.
Les pierres précieuses. Donc, les pierres précieuses, c'est encore plus compliqué car, bon, les impacts des mines sont les mêmes que les autres, donc terribles, on va dire, d'un point de vue environnemental et humain. Mais aussi, il y a énormément de commissionnistes entre l'extrait du brut et l'achat des produits qui est déjà taillé.
Alors, commissionnistes, ce sont les intermédiaires, c'est
exactement,
ça?
Exactement, ce sont des intermédiaires. Mm. Parfois, on peut trouver jusqu'aux 10 intermédiaires entre la mine et les bijoux qu'on porte. C'est énorme. Mm. Donc, du coup, avec cette chaîne si complexe, on perd complètement la traçabilité et on n'a aucune idée d'où ces pierres peuvent venir. Bon, ça, c'est la même chose pour toutes les trois matières, mais surtout pour les pierres fines et les pierres précieuses. Donc, la solution pour nous, ça a été quoi? Ça a été trouver des pierres et trouver surtout l'origine du pays et ce qui est encore plus compliqué, c'est l'origine de la mine.
Oui, avoir une vraie traçabilité.
Une vraie traçabilité parce que mes fournisseurs achètent les bruts dans la mine, mais aussi eux, ils taillent en Inde et après, ils s'envoient la pierre taillée déjà au l'atelier qui les sertit dans les bijoux. Donc, c'est une traçabilité 100%. J'ai tous les documents qu'il faut pour les démontrer.
Donc, on peut, si on t'achète une bague, on peut te demander...
Totalement.
On a tout.
Absolument.
Alors, l'autre... Ouais.
Ça veut dire, en global, après de vous avoir raconté tout ça, c'est que je peux dire que nos bijoux éthiques sont 100% traçables. Mm-hmm. Ce qui est pour moi un orgueil de pouvoir le dire.
Et c'est bien, au moins, de le revendiquer et surtout, surtout d'avoir les preuves. Tu ne fais pas du green washing.
Non, j'ai les preuves de tout.
Pour les bijoux.
Oui.
Alors, Justement, ils sont fabriqués en Inde.
Oui.
Et tu m'as expliqué que c'est parce que tu n'avais pas le choix, en fait. Quand je t'ai dit pourquoi oui. l'Inde, là, tu peux lancer un appel.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas d'atelier en France, c'est
bah,
ça.
C'est ça. Pourquoi en Inde? En fait, moi, ma démarche au début, c'était je voulais créer mes bijoux en France. Je connaissais plein de fournisseurs, donc je suis partie à la recherche de cette solution dont je vous ai parlé. J'ai parlé avec plein de fournisseurs que je connaissais de mon ancien travail. Mmh. Et ils m'ont dit tous, bonne chance, Patricia, c'est vraiment aujourd'hui, c'est impossible de trouver la traçabilité des pierres. De l'eau recyclée, il en avait, en effet, des diamants, mais pas des diamants, je n'ai pas trouvé des diamants recyclés. Donc du coup, j'ai fait un appel. Enfin, j'aimerais bien pouvoir développer des bijoux et créer des bijoux en France dans des ateliers magnifiques qui existent aujourd'hui, qu'on les connaît, qui sont un savoir-faire d'une précision, d'une qualité extrême. Mais bon, j'ai un cahier des charges assez exigeant, très exigeant. Je ne peux pas aller en arrière, donc il faut que je
trouve... Il y a un problème technique aussi, c'est ça, parce qu'ils ne savent pas travailler, souvent ces ateliers ne savent pas travailler avec ces pierres qui sont recyclées, ou... Non, ce n'est pas ça ? Là, j'avais compris ça, non.
Non, enfin, ce n'est pas que les ateliers français peuvent travailler, c'était pourquoi, ce que je t'avais raconté, c'est pourquoi on n'a pas des pierres fines qui sont recyclées. Mmh. Ou recyclables. Pourquoi ? Parce que les pierres fines, quand on les dessertit, elles se cassent.
Voilà, c'est ça. Donc, mais il y a savoir-faire autour de ça.
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un savoir-faire en France qui est très, très fort et que, voilà, un jour, j'aimerais... Bon, je veux le faire. Enfin, c'est juste, je pense, une question de temps. La France aussi, c'est un pays qui avance rapidement dans ces sens. Et j'espère que le plus rapidement ça avance, le plus je veux pouvoir travailler avec des ateliers français. Pour le moment, de toute manière, je travaille en Inde, je suis ravie, je suis contente. Ils sont très professionnels, ils sont RJC, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour leur recycler, ils ont la certification COC, ça veut dire Chain of Custody, qui garantit la traçabilité de leur recyclé aussi. Donc, et ils sont très, très, ils sont un atelier qui sont familial, qui ont un savoir-faire, qui sont transmis des pères aux fils et qui sont très consciencieux de ce qui se passe dans le secteur de la joaillerie. Ils sont en train de mettre en place beaucoup de ces initiatives aussi. Mmh. Voilà.
Au niveau des conditions de travail des humains aussi.
Oui. Ils sont parfaitement au niveau... ils ont été audités, en fait, pour une société américaine. C'est pour ça qu'ils ont réussi à avoir les certifications des RJC. Mm-hmm. Et voilà, évidemment, ils traitent ces employés. D'ailleurs, j'ai plein de photos des employés et je vais à mes clientes les envoyer une espèce de chemin pour suivre les artisans qui travaillent dans la création des bijoux.
Intéressant, ça peut faire l'objet d'une newsletter, par exemple.
Oui. Exactement. Oui.
Alors, tu as aussi un très bel univers parce que tu as créé. Donc, il y a des bijoux éthiques, là, 100% éthiques. C'est pour ça que tu es là, parce que beaucoup de marques se disent éthiques, mais finalement, c'est très, très flou quand on creuse. Mm-hmm. Toi, j'ai aimé ta précision. J'ai tout vu, j'ai tout suivi. Donc, c'est vraiment une démarche à 100% honnête et je t'en félicite.
Merci, Valérie.
Alors, j'aime aussi ton univers parce que tu as d'autres mantras qui sont, je les cite, l'amour, la joie, la créativité, la curiosité. La couleur, bien évidemment, ce que tu disais tout à l'heure. Et le symbole de tes bijoux, c'est un cœur.
Un cœur. Parce que
on ne le trouve pas. Pardon. Quand on regarde, si on regarde sur Internet, on ne les voit pas. Le cœur est caché sous les bas. Et ça, je trouve ça génial.
Oui, le cœur est sous les bas et derrière toutes les bagues que j'ai créées et aussi derrière toutes les étoiles qui sont la première collection que je crée, que c'est la bonne étoile. Il y a le cœur avec les 6 rayons. Cachés, mais qui sont là, qui font partie du bijou, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire le cœur, en fait ? Bon, le cœur, ça veut dire l'amour, évidemment. Et ces 6 rayons, c'est l'amour. Et pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit au début, en fait, ce que je voulais, c'est que cet amour qui représente les bijoux, et cet amour qu'on donne quand on offre un bijou, ou qu'on reçoit un bijou, soit étant à toute la chaîne des valeurs qui a créé ces bijoux. Mm-hmm. De la planète, qui nous donne les matières, en passant par les mineurs, et en suivant par les ateliers, et en arrivant, enfin, à la fin, évidemment, à la personne à laquelle on l'offre, ou à nous-mêmes quand on se l'offre. Voilà. C'est aussi une façon de se transmettre
exactement.
L'amour.
Exactement. Et puis aussi, le bijou est un acte, enfin, pas un acte, pardon, est un objet qui se transmet.
Ah oui.
De génération en génération.
Exactement. Quand on achète un bijou, c'est un achat très symbolique, très impliquant, parce que On sait que on a un achat ou un cadeau d'un objet qui va durer dans les temps et qui va se transmettre de génération en génération. Donc ça a une symbolique très forte.
Ta J'adore. Première collection, donc, comme tu l'as dit, s'appelle l'étoile. Ce sont des étoiles et tu l'as appelée la bonne étoile. Alors pourquoi ?
Voilà, la bonne étoile parce que ce sont des bons bijoux. Parce que en fait, la beauté...
Ah, c'est pas la bonne étoile qui porte chance ?
Aussi.
Ah, voilà.
Aussi, bien sûr. Hein. C'est la bonne étoile qui porte chance parce qu'elles sont des beaux, j'espère que... Bon, ça va être la vie d'autres personnes, mais aussi, surtout, bon. Mm-hmm. Voilà, c'est ça que je voulais avec les bijoux de la bonne étoile.
Qu'est-ce qu'un bijou élégant pour toi ? C'est ce que tu as fait ?
Un bijou, ce que j'essayais en fait en moi. Un bijou élégant, c'est un bijou qui est équilibré, qui est pour moi. Pour moi, un bijou élégant, c'est un bijou... coloré, et c'est un bijou qui peut se porter dans n'importe quelle main, mais surtout, c'est un bijou qui est porté avec amour, en fait. C'est ça qui est l'élégance, en fait.
C'est l'élégance,
c'est l'amour,
exactement.
En fait, c'est évident.
Tu es très colorée,
oui.
J'ai même vu ton appartement, qui est aussi coloré que, que tes bijoux et la façon dont tu t'habilles. Mm-hmm. Alors justement, comment es-tu dans ta façon de t'habiller ? Qu'est-ce que tu essayes de transmettre ? Parce que tu as toujours des robes colorées, tu as toujours des robes fleuries.
J'essaie de transmettre la joie qui est vivre, en fait. Les couleurs, ça représente pour moi la joie, le bonheur, en fait. On a la chance d'être vivante, on a la chance d'avoir une belle vie, pas tout le monde là, malheureusement, mais juste le fait d'être vivant, c'est déjà
c'est
une chance.
C'est symbolique aussi.
C'est une symbolique. Ouais. Et aussi, je dois dire que, en fait, quand j'étais petite, j'avais 11 ans, je suis espagnole de Bilbao, il y a aussi une ville un peu grise, un peu, voilà, obscure. C'était à l'époque, là, c'est une très jolie ville, mais à l'époque, c'était grise. Et j'ai eu la chance d'aller, quand j'avais 11 ans, au Mexique. Et je pense que ça, j'ai eu cette influence aussi des couleurs, des Frida Kahlo, des fleurs, qu'après, j'ai continué à aimer, que j'ai amené jusqu'au bout, en fait, parce que la plupart des...
Tu as grandi au Mexique ou tu es allée en vacances ?
Non, j'ai passé 2 ans au Mexique, 11 ans, 12 ans, c'est l'âge où on grandit, en fait.
Et on forge sa personnalité de mode, on va dire, modeuse.
Exactement, c'est là où j'ai forgé un peu ma personnalité. Et moi, j'ai jamais eu honte de mélanger plein de motifs, plein de couleurs. Enfin, au contraire, c'est un peu ma signature de marque. J'aime beaucoup porter ce que j'aime sans tenir en compte les regards forcément des autres. Et donc, j'aime les couleurs, j'aime les fleurs et j'aime les mélanges et je
Alors,
les porte.
Alors, quel est ton style ? Quel est ton ADN au niveau des vêtements ? Qu'est-ce que tu portes tout le temps ?
Je porte tout le temps des volants, des robes. Moi, c'est les robes.
En hiver aussi ?
Aussi, toujours. Je porte toujours des robes. Et en hiver, avec des collants, en été, sans collants. Des robes normalement colorées, normalement avec des imprimés. Et avec des différents tissus, mais très vaporeux. Enfin, j'aime bien les volants, j'aime bien tout ce qui bouge, tout ce qui est féminin.
C'est marrant parce que tu m'as dit, quand on s'est rencontrés pour la première fois, qu'en France, tu étais l'espagnole et en Espagne, tu es la parisienne.
Bah oui, je suis un peu au milieu des deux, en fait. Mais bon, là, j'ai assumé, en fait, que c'est comme ça. Je suis contente parce que je suis ravie d'être à Paris. Aussi, je suis ravie d'être
Et en même
espagnole.
Temps, qu'est-ce que ça veut dire, le mythe de la parisienne ? Qu'est-ce que tu en penses, tiens ?
La parisienne, en fait, pour eux, c'est, pour moi éventuellement, bon, là, plus pour moi, mais pour eux, c'est la sophistication, en fait. C'est une sophistication simple, en fait. C'est une être à l'aise avec qui on est. C'est faire très attention au physique sans que ça se voit trop. et connaître beaucoup les mondes de la mode et les mondes de tout ce qui est nouveau, des tendances. C'est ça qui est l'être la parisienne pour eux, en fait.
Et moi, j'ai trouvé des femmes hyper sophistiquées en Espagne.
Oui, il y en a aussi.
En Suède, il y en a en Italie, il y en a partout.
Bien sûr.
Quels sont tes créateurs préférés ?
Alors, mes créateurs préférés...
Parce que justement, où tu trouves ces si jolies robes ?
En fait, ma marque fétiche que j'adore vraiment, c'est la Double J.
Oui.
C'est une marque italienne.
Gigi Martin, qui est, voilà. passée, qui est passée dans Chiffon, d'ailleurs.
Ah, bah, je l'adore. C'est une dame, c'est une marque
c'est
italienne.
C'est une américaine italienne.
Exact. Une américaine italienne qui a commencé par exploiter les tissus, en fait. Bon, ça, tu dois savoir mieux que moi. Peux. Les tissus anciennes. Il fait des robes, mais magnifiques, que j'adore. J'ai une d'ailleurs, je l'adore. Et aussi, mes marques, j'aime beaucoup les Dior de Maria Grazia. Mmh. QC, parce que je trouve qu'elle est vraiment magique. Les Valentino, enfin, tu vois en fait ces types de marques colorées d'un côté. Et de l'autre côté aussi, j'aime beaucoup les marques qui sont engagées, mais par exemple, les marques que j'adore, même si ce n'est pas forcément coloré ou si ce n'est pas forcément avec des fleurs, c'est Veja en fait.
Ah, Veja, bah, mais oui. Veja, c'est la chaussure.
Déjà, c'est la chaussure et j'aime beaucoup parce son implication.
Ah oui, l'implication environnementale.
Environnementale et toute la transparence dans sa façon de communiquer et de faire les choses.
Qu'est-ce que tu penses de la fast fashion, justement ?
Bon, la fast fashion, c'est...
Parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une robe de la Double G ou d'aller chez Valentino.
Oui, bon, en fait... Bien sûr, enfin, ça ne veut pas dire que je m'habille toujours chez Valentino, j'aime son style. Mmh. Mais en effet, la fast fashion, il y a différents types de niveaux de la fast fashion. En fait, moi, ce que je déplore complètement, c'est la fast fashion primaire. Ça, des marques qui vraiment vendent des vêtements à 1 euro, 2 euros, 3 euros. Mmh. Ça me paraît aberrant. Après, il y a de marques qui vendent des vêtements qui donnent accès à la mode à beaucoup de gens qui ont
éventuellement chez Inditex notamment Inditex sont espagnols et qui contrôlent un peu plus
et qui à un moment donné ils ont démocratisé la mode au moins en Espagne mais que en effet il faut absolument qu'ils continuent à faire ce que je crois qu'ils ont commencé à faire, c'est être très attentifs à la chaîne de production. J'espère qu'ils vont y arriver parce qu'en effet sinon ils ne vont pas pouvoir survivre s'ils ne respectent pas
et au niveau des jeunes créatrices espagnoles, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de jeunes créatrices espagnoles.
Moi, il y a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Maria de la Orden.
Qui est aussi passée dans Chiffon.
Ah, voilà. Donc, décidément, on est toutes là. Et elle est une jeune créatrice.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Actrice espagnole qui habite aussi à Paris, comme moi, et qui a un style hyper coloré, gay, élégant. Moi, j'aime beaucoup sa fraîcheur.
Alors, justement, tu me parles d'élégance. Quelle est ta définition d'élégance ?
L'élégance, c'est savoir être comme on est, en fait, comme tu es, enfin, de façon être naturelle, être heureuse d'être qui tu es, en fait.
C'est joli. Voilà, c'est la première fois.
C'est s'aimer.
C'est la première fois qu'on me le dit.
Voilà, bon.
C'est la première fois qu'on me donne cette définition.
Ok, ce que je pense.
Merci à toi, Patricia.
Ok, merci à toi, Valérie.
Alors, si vous voulez retrouver l'univers de Rosa Maïtea, il suffit d'aller sur le site internet, sur ta page Instagram, sur Fashion Gasoil, puisque vous allez tout retrouver sur, sur Rosa Maïtea. Et puis aussi aux Galeries Lafayette, parce qu'on peut le dire, tu es vendue aux Galeries Lafayette, Haussmann.
Oui, c'est récent.
Au premier étage,
juillet.
C'est ça.
Au rez-de-chaussée.
Au rez-de-chaussée, jamais
voilà, joué. Voilà, dans un nouveau espace qui s'appelle Le Labo.
On note. Merci à toi, merci à vous, chers auditeurs. À très vite pour un nouvel épisode de ce podcast que vous pourrez retrouver dans mon webzine Fashion Gasoil. À très bientôt.